Bonjour, bienvenue sur Radio Alma. Nous sommes la classe de 6e Sandrine de l'école Ahmed. Et voici notre gazette du vendredi 11 avril.
Ces derniers temps, l'actualité peut être stressante et peut même provoquer une véritable angoisse. Voici quelques astuces pour t'aider à te sentir.
La guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis une éternité, les changements politiques partout dans le monde et particulièrement les décisions de Donald Trump, le changement climatique, toutes ces nouvelles peuvent être source de stress voire d'angoisse. L'angoisse est un sentiment de peur causé par un stress prolongé qui nous donne une boule au ventre et ne nous lâche pas. Selon Caroline De Peut, une psychiatre belge, autrice, chroniqueuse radio et mère de famille, il y a toujours eu des mauvaises nouvelles dans l'actualité. Mais c'est surtout le fait d'y être confronté tout le temps, notamment via les écrans et les réseaux sociaux, qui change la donne. Elle appelle cela l'infobésité. Heureusement, Caroline De Peut te propose des solutions si tu te sens concerné. Gérer ton temps d'écran, faire des exercices de respiration, parler de l'actualité avec quelqu'un ou lire des journaux comme le JDE qui t'explique les infos de manière plus rassurante sont des actions qui peuvent vraiment t'aider.
Le 24 mars 2025, cela fait 120 ans que Jules Verne est mort. C'est l'occasion parfaite pour redécouvrir ses histoires pleines d'aventures incroyables et ses idées d'invention qu'il avait imaginées bien avant qu'elles n'existent vraiment.
Jules Verne est un écrivain français né d'une famille bourgeoise en 1828 à Nantes. Dès son enfance, il adorait lire des récits d'aventures et rêvait de parcourir le monde. La légende raconte qu'à 11 ans, il aurait tenté de s'enfuir en bateau, passionné par la science et les inventions. Il voulait devenir explorateur et écrivain, mais son père, avocat, l'oblige à faire des études de droit à Paris. C'est là qu'il rencontre de grands auteurs, comme Alexandre Dumas, qui l'encourage à écrire. Jules Verne publie alors près de 80 romans, pleins de voyages extraordinaires, comme le Tour du monde en 80 jours ou 20 milieux sous les mers. Il imagine des mondes incroyables, des machines futuristes et s'inspire de la science de son époque. Aujourd'hui encore, 120 ans après sa mort, ses histoires fascinent toujours autant. Certaines de ses idées sont même devenues réalité et ses livres continuent d'inspirer inventeurs, scientifiques et cinéastes dans le monde entier.
Une exposition au musée royal de Mariemont a permis à des enfants de découvrir qui était Bouddha. Le sage vénéré dans le monde entier depuis 2500 ans est à l'origine d'une religion et d'une philosophie zen.
Mais qui est vraiment Bouddha en fin de compte? Siddhartha Gautama, devenu moine et philosophe, est un prince né au Népal il y a plus ou moins 2500 ans. Il est très riche et il vit dans un grand palais. Un jour, curieux de découvrir le monde, il sort de son palais et il découvre alors des choses qui le bouleversent. La pauvreté, le malheur, les maladies. Il décide alors de passer plusieurs années auprès de ses contemporains pour comprendre leurs souffrances. Il voyage surtout en Inde, passant tout son temps à méditer. Il abandonne sa richesse, qu'il considère comme un obstacle au vrai sens de la vie. Au bout de nombreuses années, il pense avoir trouvé la réponse à ce qu'il cherchait et appelle cela les quatre nobles vérités. La première vérité reconnaît l'existence de la souffrance. La deuxième l'explique. La troisième présente la possibilité de se libérer de cette souffrance. La quatrième montre le chemin pour y arriver. Il fonde alors le bouddhisme et devient Bouddha, qui peut se traduire par l'éveillé. Selon sa philosophie, chacun peut atteindre le nirvana, un état de paix intérieure, sans souffrance, en pratiquant notamment la méditation et en appliquant les quatre nobles vérités chaque jour.
Notre classe vous invite aujourd'hui à découvrir Zoé Sulico, une réalisatrice de contenu sonore. Zoé est diplômée de l'IAD, l'Institut des Arts de la Diffusion, et a aussi une formation de linguiste. Elle est également danseuse et musicienne. Depuis son plus jeune âge, elle adore écouter les gens, les lieux, la radio. Elle s'est toujours réveillée au monde sonore qui l'entourait. La création sonore et le bruitage lui permettent de conjuguer métier et passion. Primée à l'international pour sa fiction jeunesse, Rascasse le vieux marin, elle s'investit dans le paysage sonore belge au travers de nombreux projets. Elle est notamment à l'initiative de l'Écoute Buissonnière, une plateforme de podcast dédiée aux plus jeunes. Zoé s'implique également en milieu scolaire et participe à plusieurs radios associatives, dont Radio Alma.
Bonjour Zoé, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons écouté Raskas le vieux marin et nous avons plusieurs questions à vous poser pour comprendre le travail de réalisatrice sonore.
Quel est le travail d'une réalisatrice de contenu sonore? Quelles sont les étapes de la création?
Alors bonjour Léon, pour créer du contenu sonore, tout d'abord en fait c'est l'idée de raconter une histoire. Et comment tu vas raconter ton histoire? Donc c'est comme si tu faisais une peinture, un tableau, et tu te demandes quelle couleur tu vas choisir. Est-ce qu'il y aura des couleurs d'ailleurs? Est-ce qu'il y aura un fond? Est-ce qu'il y aura un avant-plan comme on dit? Quelque chose que tu entends plus? Donc souvent quand c'est une histoire, il y a les personnages, leur voix, on les entend, on dit à l'avant-plan, c'est-à-dire comme si tu étais à côté d'eux. Et puis derrière, moi je construis un décor avec, si tu as écouté certaines des histoires, par exemple, tu entends la mer au fond ou le port. Et puis à ça, j'ajoute des éléments, un peu de musique, un peu de bruitage. Et tout ça fait un ensemble cohérent, je trouve. Et alors, ta deuxième question, c'était les étapes, c'est ça? Alors, les étapes, d'abord, il y a une histoire à écrire. Elle peut déjà être écrite. Pour moi, c'est la base. Et puis, à partir de là, je vais la réécrire pour la radio. C'est comme quand tu as un livre et que tu décides d'en faire un film. Bah, tu fais pas exactement la même chose au cinéma que tu vas avoir dans le livre. Tu dois réécrire un peu l'histoire. Donc, je décide ce qui va être dit en discours, par exemple, en dialogue. Et je décide ensuite de passer en revue les décors, ce qui va être un apport de musique. Est-ce qu'il va y avoir un narrateur ou une narratrice qui va raconter entre les dialogues ce qui se passe? C'est pas toujours le cas. Et après, on enregistre. Donc d'abord, je fais un casting. S'il y a des personnages, si c'est une fiction, je choisis qui va jouer quel personnage. Et puis après, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré tout ça, on passe à la phase du montage, qui est comme un puzzle. Prendre tout ce qu'on a enregistré, jeter ce qui n'a pas marché, ou des fois, il y a des erreurs. Vous avez peut-être déjà eu ça, on dit une première fois la question et puis tu t'es trompé en la disant, alors tu dis « Oh, je vais la reprendre ». Donc ça, à l'enregistrement, j'enlève. Et puis, voilà, je mets tout ça comme un puzzle, toutes les pièces collées les unes aux autres. Et puis à la fin, la toute dernière étape, c'est le mixage. Et ça, c'est important parce que ça va permettre d'unifier un peu tous les sons. C'est-à-dire que tu n'auras pas une voix qui est beaucoup plus forte qu'une autre, par exemple, dans les personnages. Puis après, il part en diffusion, on dit. Donc la diffusion, bah, c'est ce que vous avez entendu. On le retrouve sur des plateformes sonores ou dans des lieux d'écoute, etc. Et il fait sa vie auprès de nouvelles petites oreilles, comme vous.
Travaillez-vous avec une équipe stable ou variez-vous les expériences?
C'est vrai que c'est très chouette de travailler avec une équipe stable. Une fois que tu as rencontré les gens avec qui tu aimes bien travailler, c'est agréable et en plus c'est efficace. C'est super de passer en fait du temps avec cette équipe pour chaque projet. C'est pas toujours le cas parce que les gens avec qui j'ai travaillé sont pas toujours disponibles au moment où moi je le suis. Puis sinon il y a d'autres projets où en fait ça se fait autrement. On me propose d'autres personnes ou voilà, j'en trouve d'autres et puis ça se fait. Donc j'ai envie de dire que jusqu'à présent j'ai beaucoup changé d'équipe, sauf le mixeur qui est toujours le même. Parce qu'on se comprend très très bien, il sait exactement comment je fonctionne et donc c'est toujours lui qui met la dernière pincée de sucre sur le gâteau, on va dire.
Faites-vous le broutage vous-même ?
Oui Gaston, je l'ai fait moi-même. Maintenant, la première fois, non. Je les ai confiés à Alfred Spirly. Pour Raskas le vieux marin, je cherchais un musicien qui fasse de la musique avec des objets parce que je trouvais que c'était tout à fait cohérent avec l'histoire puisque Raskas trouve des objets quand il pêche. J'avais trouvé ça génial comme idée. Et en fait, il m'a beaucoup, beaucoup appris. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis après, j'ai une autre bruiteuse qui m'a aidée aussi, qui s'appelle Céline Bernard, qui est vraiment une personne extraordinaire en Belgique, qui fait beaucoup de bruitage pour le cinéma. Et elle m'a encore donné des petites recettes magiques. Et puis à partir de là, j'ai aussi composé moi-même.
Vous êtes partie d'une histoire existante de Frédéric Cartier-Lange et vous l'avez fait vivre plus intensément dans notre imaginaire à l'aide de bruitage et de musique. Avez-vous besoin même de cette simplification sensorielle pour vous créer des images mentales lorsque vous lisez ou écoutez une histoire?
Tu veux dire que quand je lis moi-même une histoire, par exemple dans mon lit, quand je lis un livre, est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée en plus de la musique?
Je parlais plutôt de vos histoires comme Raskas ou comme ça. Vous devez vous faire des images sensorielles aussi ou pas?
pour Raskas, ce qui s'est passé, j'ai apporté le livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de texte, enfin très peu. Frédéric, il a travaillé avec, tu vois, plusieurs textures. Plus je lisais cette histoire, plus tous les éléments qu'il a dessinés m'éveillaient quelque chose du point de vue sonore. Plus je l'entendais. Après, j'ai traduit sur papier ce que j'entendais pour expliquer mon projet. Et voilà, c'est vrai que je l'entendais avant de la réaliser, quoi. Même dans la vie de tous les jours, je m'invente un peu des petites histoires, tu vois. Pour venir jusqu'à l'école aujourd'hui, j'ai traversé tout Bruxelles. J'ai vraiment traversé des paysages de la ville très différents. Et je regardais un peu les gens dans le bus, qui marchaient sur les trottoirs. Et puis j'imaginais un petit peu leur vie comme ça. Alors j'imagine un peu la musique qui va avec. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Est-ce qu'on entend des bruits de pas? Est-ce qu'on entend une petite poussette qui couine? Quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que ça fait partie de ma vie.
Pour Raskas, l'histoire existait déjà. Écrivez-vous parfois les histoires vous-même?
Pour la fiction, par exemple, pour les enfants, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai travaillé à partir d'histoires qui existaient déjà et que j'ai décidé d'adapter pour le sonore. En documentaire, c'est différent. C'est moi qui écris l'histoire, en fait. Quand vous avez écouté C'est ta vie, c'est vrai que les deux comédiennes qui jouent cette pièce de théâtre m'avaient demandé d'en faire un podcast. Donc j'ai suivi le déroulé de leur pièce de théâtre, mais pour la construction, c'est moi qui ai imaginé le schéma que j'allais suivre, quelles questions allaient être posées, comment ça allait se passer avec, c'était avec des élèves de votre âge d'ailleurs, à la Louvière. Après, là, je travaille sur d'autres projets pour adultes et c'est vrai que c'est des choses que je crée moi-même. Ça dépend des moments.
Avez-vous des bruitages ou des instruments de prédilection?
Tout à fait. J'ai des bruitages que j'aime beaucoup. Comme le vent dans les arbres, par exemple, j'aime bien le faire. En plus, c'est toujours facile dans une histoire de placer un petit vent dans un arbre. Tu veux savoir comment je le fais?
Oui, je veux bien.
Alors, pour le vent dans les arbres, est-ce que vous avez déjà vu chez vos parents ou d'autres adultes à peu près de notre génération des cassettes audio? En fait, nous, on écoutait la musique sur des cassettes, comme ça, et puis on regardait des films sur des cassettes vidéo. Et les deux nécessitent ce qu'on appelle une bobine, une matière un peu plastifiée. C'est dessus qu'était inscrite la musique. C'est assez magique comme chose. Maintenant, on s'en sert plus. Et j'ai un stock de cassettes chez moi. Donc j'ai enlevé, je l'ai cassé en fait, pour enlever le film à l'intérieur. Donc je tire comme ça la bobine. Et quand tu l'agites comme ça, tout doucement, ça fait un gros tas. Quand tu l'agites doucement et que tu fermes les yeux, tu as vraiment l'impression qu'il y a un petit vent léger qui passe dans les feuilles des arbres.
Illustrer des histoires avec des bruitages et des musiques, superposer des voix, les marier, est-ce un concept novateur ou avez-vous été influencé par d'autres artistes qui faisaient ça avant vous?
Je dirais que c'est à la fois novateur comme concept et à la fois très ancien. C'est très ancien dans le sens où au tout début du cinéma, le cinéma était muet, par exemple. On n'avait pas de voix, on n'avait pas de son. Donc il y avait des petits intertitres, on dit, entre les scènes. C'était un peu ton cerveau qui recréait tout ce que tu pouvais imaginer comme son d'après l'image que tu voyais. Et en même temps, c'est novateur parce que t'as pas forcément de... Ça m'a l'air d'être une recette, un peu comme quand tu fais un gâteau, tu sais que tu vas mettre des œufs, du beurre, de la farine. Et c'est pas ce que tu entends tout le temps dans les histoires que vous pouvez écouter ou voir. En fait, je pourrais revenir à plus près le dessin animé, par exemple. C'est vraiment le cas. Le dessin animé, t'as les images, et puis, en fait, t'as plein de bruitages qui vont avec, plus les voix, plus la musique. C'est exactement ce principe-là.
Nous avons aussi écouté votre pièce de théâtre sonore, C'est ta vie, qui parle de la puberté. Est-ce important pour vous que vos œuvres aient une portée pédagogique?
Oui, j'aime bien que mes histoires aient une portée pédagogique. Alors, pourquoi? Parce que je trouve que vous êtes, vous, en tant qu'enfant, et puis aussi les jeunes adolescents et adolescentes, vous êtes les citoyens et citoyennes de demain. Et je pense que c'est important, en fait, que vous puissiez vous exprimer, qu'on entende ce que vous avez à dire, ce que vous pensez, et que ce soit pas toujours les adultes qui décident de ce dont vous avez besoin ou ce que vous pouvez aimer ou ne pas aimer. Ça nous permet aussi à nous de grandir. Et l'autre chose, c'est comme vous êtes les citoyens et citoyennes de demain, je trouve ça important que vous ayez des contenus de qualité. Donc des choses qui vous parlent, mais qui vous stimulent aussi, qui vous posent des questions sur lesquelles vous pouvez rebondir. Parce que si on vous donne des chouettes programmes, alors ça va vous aider à aussi vous être des chouettes grands adultes et à bouger les lignes, à changer les choses. Et quand on donne des choses pas très intéressantes, bah, soit on s'ennuie, soit des fois on devient un peu bête. Mais ça, c'est pas que les enfants, c'est aussi beaucoup les adultes.
Travaillez-vous souvent au milieu scolaire et avec des élèves de quel âge ?
Oui, je travaille beaucoup en milieu scolaire, comme ce matin, mais avec des ateliers en général. Et les élèves de quel âge ? Ça va de la maternelle à des universitaires, des étudiants et des étudiantes. J'aime beaucoup toute cette tranche d'âge-là, donc toute l'enfance, l'adolescence et les jeunes adultes, parce qu'il se passe énormément de choses en finalement peu de temps. Tu vois, si je prends une photo de toi maintenant et qu'on regarde il y a 5 ans en arrière, t'auras beaucoup, beaucoup changé. t'étais beaucoup plus petite, certainement plus ronde, plus potelée, et puis t'avais une tête plus jeune. Moi, si on prend une photo de moi maintenant et une photo de moi il y a 5 ans, à part ma coupe de cheveux, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc je trouve ça assez fascinant de travailler avec vous. Et en ce moment, par exemple, je travaille avec 4 classes de 5e et 6e secondaire. Voilà.
À part Raskas le vieux marin et C'est la vie, pourriez-vous nous recommander une autre de vos créations pour nos jeunes auditeurs ?
Ah ben avec plaisir. Alors pour votre tranche d'âge, je peux vous conseiller une pièce que j'ai faite avec mes partenaires québécois, donc au Canada, qui m'avaient invité pour faire un podcast qui s'appelle Capitaine Sirop. Et c'est comment on fait du sirop d'érable dans une érablière urbaine. Ça veut dire qu'en fait Capitaine Sirop est un personnage assez rigolo et il a décidé en ville, à Montréal, il y a plein d'érables. Donc c'est des sortes d'arbres dans lesquels en fait on va puiser le sirop. Et donc il en fait en ville avec des classes comme vous et il leur apprend comment on fait ça. Et donc tu peux écouter ce podcast, il se retrouve sur le site de La Puce à l'oreille. Et donc voilà, tu vas découvrir comment ça se passe avec Capitaine Sirop. Et puis 2 petites filles qui l'ont interviewé. Quoi d'autre pour votre tranche d'âge ? Si, il y a Le lieu de toutes les histoires, qui a été diffusé d'ailleurs sur Radio Alma. Et ça, c'est une fiction à partir d'une histoire qui existe déjà, qui a été écrite par Anne Penders. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans une vallée sombre et profonde où ses parents et tout le monde sont casseurs de cailloux, ce qui n'est pas très très drôle, c'est un peu une triste réalité. Mais elle a le pouvoir de parler avec les pierres, et puis il y a une vieille pierre qui lui donne confiance et qui lui dit bah, « si t'aimes pas où tu habites, pars ». Et donc, cette petite fille, elle va traverser les montagnes, les prairies, etc., en quête d'un endroit plus chouette où vivre. Et en chemin, elle va rencontrer d'autres enfants avec qui ils vont devenir très amis et vont s'aider. Voilà, et ça, tu peux aussi l'écouter sur l'écoute buissonnière, la plateforme de podcast belge.
Merci Zoé, et continuez à nous instruire et surtout à nous faire rêver.
Avec plaisir.
Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle gazette.